Panthéon. Nicolas Jamain.
Il faut l'arrêter, il défonce tout.
Oh là là, quelle action du journal Omou.
C'est une
extraterrestre.
Le journal Omou, c'est international, ouais. C'était planétaire. Hein.
Lomu, heading for four, that's the most brilliant quartet of tries you'd ever wish to see.
C'est vrai qu'il était malade depuis l'âge de 18-19 ans. Il a toujours des soucis de rêve.
I never gave up, I even tried to play while I was on dial.
Lomu, attention Lomu, oh là là, il se balade. L'univers se balade. Et c'est néo-zélandais.
En Nouvelle-Zélande, le pays tout entier pleure un de ses enfants All Black.
Your rugby career is only a short term, but your life is longer than it. How you live it is still in the spirit of rugby.
C'est l'histoire d'une montagne. C'est l'histoire d'un colosse d'un mètre 96 et 220 kilos. C'est l'histoire d'un alliage parfait de puissance et de vitesse, d'un rugbyman capable de courir le 100 mètres en moins de 11 secondes. C'est l'histoire d'un phénomène, de la première et unique star du rugby mondial. C'est l'histoire de Jonah Lomu. Figure éternelle des All Blacks, aussi effrayante sur un terrain que douce dans la vie. Jonah Lomu, c'est une rumeur qui descend les tribunes quand il s'élance pour fracasser les défenses. Deux Coupes du Monde mémorables qu'ils n'auront pourtant jamais vu triompher. Peu importe, la légende est gravée. À jamais, renforcé par un décès prématuré à l'âge de 40 ans, seulement à cause d'un mal qu'il a rongé tout au long de sa carrière. Comment a-t-il construit son mythe? Pourquoi a-t-il fait basculer le rugby dans une autre dimension? Aurait-il pu faire plus sans sa maladie? Vous écoutez Panthéon, un homme, une légende. Voici l'histoire de Jonah Lomu, le joueur parfait. Novembre 2015, Eden Park d'Auckland, Nouvelle-Zélande. Une trentaine d'anciens All Blacks font résonner dans le stade le chant du deuil maori. Ils portent tous un maillot noir, floqué du mythique numéro 11. Devant eux, un cercueil en bois, imposant et noir, descend de l'estrade. À l'intérieur, la dépouille de Jonah Lomu. Elle est portée par ses plus proches coéquipiers. Parmi eux, Jérôme Keino, Joely Vidiri, Frank Bunce et Michael Jones. Ils ont enfilé ensemble pendant des années le maillot des All Blacks. La femme de Lomu, Nadine, et ses fils, Brayley 6 ans, Direy 5 ans, suivent le cortège, tête basse, sonnée par l'émotion. Dans les tribunes, des milliers de fans observent la procession en silence. Interrompu par le traditionnel haka, dans sa version la plus connue, Kamate. Buck Shelford, champion du monde 1987, et Tana Umaga, autre légende néo-zélandaise, donne le ton. Puis Nadine reçoit dans ses mains une colombe, blanche, qu'elle libère dans le ciel néo-zélandais. C'était le dernier hommage, le dernier haka pour Jonah Lomu. 12 jours plus tôt, le 18 novembre 2015, le joueur le plus connu de l'histoire du rugby est décédé d'une crise cardiaque. Il avait 40 ans. L'histoire de Jonah Tali Lomu débute le 12 mai 1975 à Auckland, la capitale économique de la Nouvelle-Zélande. C'est ici qu'il va grandir après quelques années sur les îles Tonga. Son prénom, il le doit à sa tante Ruby, une femme très croyante, marquée par le récit biblique Jonah dans le ventre de la baleine. Il est un enfant du Pacifique, issu d'un mélange océanien, tongien, wallisien et samoan. C'est d'ailleurs sur une île des Tonga qu'il passe une partie de son enfance. Ses parents l'ont confié à sa tante et son oncle. Il y mène une vie paisible, à seul à couler douce sur la plage, comme il l'écrit, une île où il apprend les légendes et les mythes tongiens.
C'est un pays complètement à part. Tonga, ce sont des îles perdues au milieu du Pacifique.
Ian Borswick, journaliste franco-néo-zélandais, ancien grand reporter à l'équipe.
On est un peu hors du temps, en façon de vivre, un peu comme au Fidji, un peu comme au Samoa, complètement déconnecté du monde modernes, entre guillemets. Mais c'est surtout qu'ils sont attachés à leur tradition, à leur langue, et au rugby, évidemment, mais à cette culture profonde polynésienne.
Et il en voudra à ses parents de l'avoir arraché à 7 ans, à sa tante et son oncle qui l'ont aimé profondément. Il en voudra surtout à son père qui, selon lui, ne l'a jamais aimé. Sémissi Lemou, c'est son nom, est un homme très strict mais aussi alcoolique et violent. Il s'en prend souvent à Jonah, à son petit frère John et à leur mère, Amy. Quand il buvait, il devenait la pire personne, écrit Lemou dans son autobiographie.
Ils avaient des rapports très conflictuels, ça a marqué son enfance, ça a marqué toute sa vie à Jonah, ce rapport avec le père. Bon, je pense que vers la fin, heureusement, il s'est rabiboché un petit peu, mais bon, quand il était jeune, il était en colère, il était très touché par la violence de son père, et je pense que c'est quelque chose qu'il a toujours porté dans son cœur.
Le petit Jonah cache les marques des coups quand il se rend à l'école, mais tire une fierté face à son père. Quand il me frappait, je ne pleurais pas. Je restais assis. Je le regardais dans les yeux et j'encaissais. Il détestait ça. Une haine que l'adolescent a gardée en lui jusqu'à une journée marquante dans sa vie. Nous sommes en 1990, il a 15 ans. Plus grand, plus fort que son père, il décide de se révolter. Ce jour-là, mon père avait picolé. Il avait levé la main pour me frapper encore. Je l'ai attrapé, je l'ai soulevé, je l'ai balancé sur le sol à travers la pièce. « Je n'accepterai plus jamais ça !» lui ai-je hurlé en me postant devant lui. « Si jamais tu lèves encore la main sur moi ou sur n'importe quel autre enfant, tu auras affaire à moi. » Son père lui répond qu'il n'est plus son fils et l'exhorte à quitter la maison. Jonah s'exécute. « Ce jour-là a été le dernier que j'ai passé en tant que fils sous le toit de la maison de mes parents. Ce jour-là, ma vie a changé pour toujours. » Et c'est à cause de la violence de son père à la maison qu'il se tourne vers ses amis de la rue. Il se rapproche notamment d'un gang de Mangere, dans la banlieue d'Auckland. Un gang d'origine tongienne, comme lui, qui s'en prenait aux Samoans et avec lesquels ils vont se battre régulièrement.
Dans cette banlieue du sud d'Auckland, plutôt pauvre, même très pauvre, des maisons très mal construites, où il fait très froid, très, très humide dans ces maisons. Ce sont donc ces gens de l'immigration polynésienne qui se retrouvent d'un côté les Samoans, d'un côté les Tongiens. Aussi, il y a les Maoris. C'est une ambiance assez violente dans laquelle il grandit.
Il va loin dans la délinquance. Il rackette des passants en ville. Il vole des vélos et des voitures qu'il désosse. Se jette dans des bagarres d'une violence inouïe. Reçoit un coup de couteau dans la jambe. Au moins, j'avais le sentiment d'être désiré. Heureux dans un groupe, j'étais fier et agressif. Quand je me battais, je pensais toujours à mon père, que je lui mettais une trempe et ça me plaisait. Amy, sa mère, comprend que son fils est en danger. Il a 13 ans quand elle décide d'agir. Elle l'envoie dans un internat au très strict collège de Wesley, à Paerata, le plus vieux collège de Nouvelle-Zélande. C'est à 25 km au sud d'Auckland que sa vie va commencer à changer.
C'est une chance inouïe pour Jonah d'aller à cette école, ce lycée-là, parce qu'il y a une énorme culture sportive, une énorme culture disciplinaire. Il y a beaucoup de grands sportifs, beaucoup de grands rugbymen qui sont sortis de cette école. Et je ne citerai que, par exemple, Winnie Antonio, qui joue pour l'équipe de France, qui a fait ces études-là et qui a appris les bases de la discipline humaine, mais la discipline de rugby, quoi.
Et il rencontre un homme qui va être déterminant dans sa carrière, dans sa vie, le proviseur adjoint du collège, Chris Grinter. Il est un ancien coach de rugby à 15 et il voit débarquer en septembre 1988 cet adolescent de 13 ans dans son bureau. Le jeune Jonah est timide, presque effacé, plus costaud que la moyenne certes, mais évidemment il n'imagine pas un instant que le gamin en face de lui va changer son sport quelques années plus tard. Il constate en revanche qu'il a une colère en lui et qu'il faut la canaliser. Alors il lui achète un sac de frappe.
C'est sûr qu'il porte cette colère, mais il a une telle puissance en lui que son prof a vu que bon, il fallait s'en servir quelque part, il fallait en faire quelque chose. Et il a toujours aimé la boxe aussi, même quand il était joueur de rugby, il a adoré ça. Et il adorait la façon de transférer la poids de la puissance à travers les jambes, qu'il a beaucoup appris ça en faisant de la boxe.
Les pires journées, j'y allais 3 à 4 fois par jour. Grâce à lui, « je me suis débarrassé de toutes mes frustrations », écrit Lemou dans son autobiographie. En revanche, Grinter n'arrive pas à l'intéresser au rugby à 15, qui est le seul rugby pourtant pratiqué au Wesley College.
Il m'a fallu environ un an et demi avant de me rendre compte que j'appréciais ce sport, que j'appréciais le rugby avec ses règles assez louches. Quand tu cours et que tu te fais plaquer, tu es censé relâcher la balle et tu te demandes pourquoi ces mecs viennent former un ruck autour de toi.
Alors, la première année, il continue de jouer au rugby à 13 et s'essaye à l'athlétisme. Il réalise qu'il a des prédispositions physiques exceptionnelles. Il remporte les championnats scolaires et régionaux, surtout toutes les distances, au sprint, aux épreuves de saut, hauteur, longueur et triple saut, et de lancer, disque, poids et javelot. Mais ce n'est que lors de sa deuxième année à 14 ans qu'il accepte de se lancer dans le rugby à 15. Chris Grinter le voit un jour faire un dunk sur un terrain de basket. Il a besoin d'un deuxième ligne fort sur les touches, à une époque où l'ascenseur n'était pas encore autorisé. John Alomou accepte, nous sommes en 1989, et l'histoire de la plus grande star du rugby mondial commence ici. Dès ses débuts dans le rugby à 15, le jeune Jonah impressionne. Il empile les essais. Sa puissance, sa vitesse font des ravages. Il a 15 ans, mesure plus d'1m80 et pèse 94 kilos. Dès sa première année, il contribue à la victoire du Wesley College dans le championnat national néo-zélandais. Et en 1990, un homme le repère, alerté par la précocité et le talent hors norme du joueur. Son nom, Philip Kingsley Jones. Qui est-il ?
Phil Kingsley Jones est un Gallois à l'origine qui a joué au rugby à Ebbw-Vale. Mais il était surtout un comédien, un comique qui savait bien parler, faire des discours remarquables. Il était connu pour ses discours d'après-match, un peu à droite à gauche. Et même, il faisait des discours à travers la Nouvelle-Zélande. Mais en arrivant en Nouvelle-Zélande en 1983, il s'est lié à la province de Counties Manukau. Il gérait un peu les joueurs, il faisait un peu de tout. Mais il est devenu un des premiers, entre guillemets, agents des joueurs, même s'il n'était pas encore professionnel.
Et tout s'accélère pour Jonah. Il survole le championnat scolaire national. Deux ans après ses débuts dans le rugby à 15, il est appelé pour jouer avec les moins de 17 ans néo-zélandais, puis les moins de 19 ans en 1993 et les moins de 21 ans l'année suivante. Mais après 5 ans au Wesley College, c'est au rugby à 7 qu'il se consacre.
On a joué contre son équipe et il devait avoir environ 15 ans au moins.
Eric Rush, 9 sélections avec les All Blacks.
Et tout ce dont je me souviens, c'est d'un grand mec qui courait. Je suis allé le voir à la fin du match, je lui ai demandé s'il avait déjà joué au rugby à 7. Il m'a répondu non.
Il a dit non. Hold the tackle bags at training every day. And you got smashed every single time.
Quand on s'entraînait avec les sacs de plaquage, peu importe qui le tenait, il arrivait lancé à pleine vitesse. Tout le monde reculait. Il arrivait avec une force incroyable et une véritable rage. J'avais de la chance car on était amis. Lors d'un match d'entraînement, il était face à moi. Le coup d'envoi est tiré parfaitement et pendant que je regarde le ballon, j'entends ses pas. Quand je prends le ballon, je prie les dieux, je regarde devant moi et je le vois arriver sur moi, me faire un gros câlin et me dire « T'as de la chance, papy ».
Nous sommes en 1994, John Alomou a 18 ans, son nom, ses exploits résonnent de plus en plus en Nouvelle-Zélande et ce que beaucoup lui prédisaient finit par arriver. Le haka, le premier haka dans l'histoire de John Alomou, le premier avec les All Blacks. Nous sommes le 26 juin 1994 à Christchurch, en Nouvelle-Zélande. Jonah s'apprête à vivre sa première sélection, tellement ému qu'il est sur le point de craquer lors de l'hymne national. Ian Borthwick, nous n'imaginons pas, nous Français, à quel point il est fort pour un jeune néo-zélandais de devenir un All Black.
Surtout d'un fils d'immigré, d'un fils rejeté, c'est encore plus fort. Et sachant qu'il est le plus jeune All Black de tous les temps, on parle d'un phénomène. On n'a jamais vu une chose pareille. Quelques années auparavant, on s'étonnait de voir un ailier qui pesait 90 kilos. Et là, il y en a un qui pèse 118 kilos. On n'avait jamais vu ça. Et surtout, pas la vitesse et puis la puissance qu'il avait.
Sur les images, on voit encore un homme au visage juvénile, les cheveux coupés ras, le regard pas encore habité par l'événement, presque perdu au milieu des Blacks et de ses légendes. Sean Fitzpatrick, Frank Bunce, John Kirwan sont à ses côtés. Jonah n'a que 19 ans et 45 jours. Il devient le plus jeune All Black de l'histoire. Et pour sa première, il trouve en face de lui une référence du rugby mondial. Le 15 de France, de la star Philippe Sella qui fête ce jour-là sa 100e sélection. Le 15 de France aussi, du capitaine Philippe Saint-André.
À l'époque, avec les moyens du bord, mais tu analysais déjà tes adversaires, la stratégie, les joueurs, et lui, on avait vu que voilà, il avait des dimensions, il était grand, il était énorme. Je crois qu'il faisait moins de 11 ou 100 mètres, mais il était jeune, donc il avait encore des lacunes.
Les Blacks sont battus par le 15 de France. 22-8, Jonah vit mal la défaite, il a raté sa première en noir. Aussi parce qu'il n'a pas joué à son poste, ce poste d'ailier, qui fera pourtant sa légende plus tard.
Il faut savoir, l'ailier, c'est peut-être le poste le plus difficile sur le terrain pour avoir des repères. Alors, il avait joué à peine 5 fois à l'aile et le faire jouer contre des joueurs de la trempe d'Émile Tamac qui était en face de lui et Philippe Sella, c'était très difficile pour lui. Les Français avaient trouvé une combine tout de suite pour l'éliminer et le déboussoler sur le terrain.
C'était quoi ?
Il défendait à deux sur lui et chaque fois que Lomu touchait le ballon, il y avait deux Français sur lui, un en haut et un en bas, et ils arrivaient à l'arrêter.
Une semaine plus tard, il veut prouver qu'il a sa place au milieu des légendes. Nouveau test match face aux Français. Cette fois-ci chez lui, à Auckland, Eden Park. Nous sommes le 3 juillet 1994 et ce jour-là, il assiste, impuissant, à l'une des plus grandes actions de l'histoire du rugby français. Au commentaire pour France 2, Pierre Salviac. Et Pierre à la balade des joueurs.
Saint-André pour une relance. Philippe Saint-André pour une relance. La balle est pour les Français. Voilà, ça repart. Ça repart, il y a le surnombre. Il y a le surnombre Benazi. La passe pour Tamac. Il y a Philippe Sella là-bas. Il y a Cabane. Il y a Deleg. Et il y a peut-être un essai en bout, bah oui. C'est le seul. C'est le seul de la finale. C'est le seul de la victoire.
Quand tu revois les images, c'est vrai que je crois qu'il se trompe défensivement. Et c'est vrai que c'est là où tu vois qu'il était encore naïf. Il fait une petite erreur défensivement.
Peut-être effectivement qu'il a été un peu naïf sur cette action-là.
Yann Deleg, 20 sélections en équipe de France.
Parce que c'était ses débuts, il avait 19 ans. Puis ça a fait mal à cette équipe de Nouvelle-Zélande.
Ses deux premières apparitions sous le maillot des Blacks, malgré la défaite, sont essentielles dans l'année qui va suivre. 1995, année de Coupe du Monde, année de l'explosion du phénomène. Jonah Lomu. Le 24 juin 1995, Ellis Park Stadium de Johannesburg. Jour majeur dans l'histoire du rugby. Jour majeur dans l'histoire de l'Afrique du Sud. Pour leur première participation en Coupe du Monde, les Springboks s'apprêtent à jouer la finale d'un tournoi qu'ils organisent. Un an après l'arrivée au pouvoir de Nelson Mandela. L'événement doit sceller la fin de 4 décennies d'apartheid qui a valu la mise au banc de l'équipe nationale dans le concert mondial du rugby. Mandela l'a compris, une victoire permettrait d'apaiser les tensions dans un pays fracturé entre ces deux communautés. Noire et blanche. Une finale à gagner contre les All Blacks et contre la nouvelle star du rugby, Jonah Lomu, car c'est au cours de cette compétition que le monde a découvert le phénomène.
Déjà, après ses deux premières sélections pour les Blacks, il est évincé de l'équipe, il est écarté. Et donc, il devient ce qu'il aimait dire le plus jeune ex-All Black de l'histoire. Mais il est repris pour la Coupe du Monde. Dès le premier match contre l'Irlande, il crève l'écran, quoi. Je crois que là, il avait vraiment fait changer le cours de l'histoire du rugby.
Lomu, flanqué de son numéro 11, impressionne dès le début du tournoi, effectivement. Il marque 2 essais en ouverture face à l'Irlande, 1 essai en quart de finale contre l'Écosse et signe une performance inouïe, presque effrayante en demi-finale contre les Anglais. Nous sommes le 18 juin 1995. Au commentaire pour Canal+, Thierry Gilardi et Serge Blanco.
Avec un point de fixation au milieu du terrain, le ballon ressort.
Ouais, tout de suite pour Bachop, c'est bien fait. Il a essayé d'alerter Lomu.
Voilà, Lomu qui passe.
Tête à tête, il est passé. Deuxième, il arrive face à 4.
Oh, il marque.
Oh là 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 là. C'est formidable. La montagne Lomu vient d'allumer cette demi-finale.
Réécoutons cette action, mais cette fois-ci avec les commentaires anglais. Il raconte encore mieux la brutalité de l'essai. La puissance de Jonah Lomu.
Bashup again, New Zealand maintaining possession. Wide to Lomu. He's got the bounce. He's handed off his opposite. Lomu. Oh,
il n'y a pas de parole. Il n'y a pas de parole. On n'avait jamais vu un truc pareil. Il passe sur Mike Catt comme si c'était un gamin de 5 ans.
Il marche dessus.
Il marche dessus carrément. Mais il a montré sa puissance. Mais bon, quelques minutes plus tard, Il marque un autre essai, tout en finesse, avec un crochet où personne ne le touche, c'est-à-dire qu'il était capable d'aller tout droit et écraser son adversaire et l'écarter avec un crochet de folie.
Tout ce dont je me souviens, c'est que je pars vers l'extérieur. Underwood arrive presque à me mettre dehors. J'étais sur le point de tomber, mais j'ai réussi à retrouver l'équilibre juste à temps pour voir Mike Catt juste devant moi. Et tout ce que je sais, c'est que je dois lui foncer dessus car je ne peux pas faire autre chose. Ensuite, j'ai vu l'embute et je savais que je ne pouvais plus faire de pas, sinon j'allais trébucher. Alors j'ai sauté.
Il venait de trébucher avant de m'atteindre.
Mike Catt, 75 sélections avec l'équipe d'Angleterre.
Et ensuite, je me suis dit, une masse de 115 kilos, tête en avant, me fonce dessus. Moi et mes 90 kilos. Ça sent le passage de rouleau compresseur. J'ai repensé aux techniques qu'on m'a toujours apprises, tenter une cuillère ou le pousser en plaquant. Le seul truc dont je me souviens, c'est que j'étais par terre. Je regarde derrière et je vois Jonah marquer l'essai. J'ai regardé de l'autre côté, Robin Brooke est venu me voir et m'a dit « Mec, ce n'est que le début. »
L'ouragan Lemou a balayé l'Angleterre. Il inscrit à lui seul 4 essais dans ce match. C'est le chef-d'œuvre de la carrière du All Black. Ce jour-là, j'ai couru sur un tapis d'adrénaline toute la rencontre, écrit-il plus tard. Ce jour-là, on ne le sait pas encore, mais on comprend que Jonah Lemou a inventé le rugby du 21e siècle.
En fait, c'était comme une figure de bande dessinée ou de super-héros, quoi.
Ian Borthwick, journaliste franco-néo-zélandais, ancien grand reporter à l'équipe.
Il a changé le rugby parce que ce sont des yeux de Murdoch, Rupert Murdoch, qui a vu à l'écran ses exploits, qui a dit « Je veux ces images-là sur les écrans du monde entier ». Et c'est là, juste avant la finale, où les dirigeants du rugby du Sud signent enfin un contrat pour que le rugby tourne professionnel.
Le voici donc à 20 ans, tout juste, en finale de Coupe du Monde contre le rival de l'hémisphère sud, les Springboks de François Pienaar. Les Blacks ont les favoris devant eux, l'Afrique du Sud, parce qu'elle joue chez elle, parce que le pays, le monde même, est derrière elle, derrière le symbole Mandela, qui fait une apparition surprise et historique sur la pelouse de l'Ellis Park, avec le maillot jaune et vert sud-africain. Et ce que beaucoup espéraient se produit, les Sud-Africains battent les Néo-Zélandais 15-12 après prolongation, sans qu'aucun essai ne soit marqué, sans que Jonah Lemou puisse exprimer sa puissance. Il a été empêché, muselé comme jamais dans cette finale.
Il y avait un moment où on pensait que Lemou allait marquer, il n'y avait plus personne, et puis juste, on ne sait pas comment, mais Joost van der Westhuizen, le demi de mêlée sud-africain, est arrivé de nulle part pour le plaquer autour des chevilles. Bah, c'était le destin des Springboks, le destin de l'Afrique du Sud.
Après cette défaite s'ouvre une polémique, les Blacks ont-ils été empoisonnés avant le match? L'avant-veille, une majorité de joueurs sont tombés malades après un dîner à l'hôtel. Jonah lui aussi a été touché. Tous ou presque ont été victimes d'une intoxication alimentaire. Qu'est-ce qu'il s'est passé?
On ne sait pas exactement, on pense qu'ils étaient empoisonnés par un jus de fruits ou une collation de l'après-midi de jeudi à l'hôtel. Toujours est-il que 90% des joueurs étaient malades, même en allant au stade, ils vomissaient encore. Et ils avaient tous la diarrhée et même on a des images de Jeff Wilson qui vomit sur la touche pendant le match. Donc ils étaient diminués. Mais bon, ils n'avaient rien dit. Ils se sont réunis pour éventuellement reporter la finale, mais ils savaient qu'il y avait tellement de pression que c'était impossible, donc ils n'ont rien dit.
Après cette Coupe du Monde et malgré la défaite, la vie de Jonah ne sera plus jamais la même. Il est le visage du rugby mondial. Tout le monde va approcher le phénomène, tout le temps, partout, et il n'aime pas ça. Je menais une vie que je pouvais plus ou moins contrôler, et puis tout à coup, ça m'a été enlevé. Pourtant, il joue le jeu, pose sa signature sur des contrats publicitaires. McDonald's, Pizza Hut, tête d'affiche du premier jeu vidéo de rugby qui porte son nom, et Adidas qui va le suivre toute sa carrière. Il faut préciser à cette époque-là que le rugby n'est pas encore professionnel.
C'était un monde nouveau, personne ne savait où aller, personne ne savait comment gérer cet argent et ses nouvelles habitudes dans le monde du rugby.
Jonah travaillait encore, il était employé de banque.
Tout le monde avait un travail, mais bon, les choses ont rapidement changé parce qu'il y avait tout d'un coup de l'argent et tout d'un coup, les joueurs pouvaient s'entraîner tous les jours de la semaine. Il faut rappeler le physique incroyable qu'il avait. C'était encore un sport amateur où on s'entraînait peut-être deux fois par semaine, ou de temps en temps on allait faire un peu d'haltère dans une salle de gym. Mais on n'avait pas du tout les entraînements et les équipements qu'on a aujourd'hui.
Ses percées pendant la Coupe du Monde attisent les convoitises. Le rugby à 13 veut à nouveau l'attirer. Plus étonnant, la franchise américaine de football américain, les Dallas Cowboys, lui font un pont d'or. 6 millions de dollars par saison. Lemieux refuse. Il choisit finalement de rester au pays pour jouer le championnat local et atteindre le but de sa vie, être sacré champion du monde avec les Blacks. En cette fin d'année 1995, Jonah est attendu partout et c'est en France qu'on va le revoir sur les terrains. Deux test matchs les 11 et 18 novembre, l'occasion pour lui d'effacer le souvenir de ses deux défaites un an plus tôt.
Les Blacks ont perdu le lever de rideau puisque Philippe Saint-André qui a gagné le toss.
Sur le coup d'envoi, il se met en face de moi. Je dis oulala, je me dis je vais passer une mauvaise après-midi.
Alors que le coup d'envoi maintenant va être donné par Simon Cullen.
Il le tape directement sur moi et Jonah Lomu était tellement énervé qu'il était parti hors jeu sur le coup d'envoi parce qu'il voulait me massacrer.
Je vais vous dire mon cher que monsieur Lomu est parti avant que le coup de pied soit donné, ce qui fait qu'il était en position de hors-jeu, alors il y aura une mêlée au centre.
Et là, je le vois changer d'aile et retourner de l'autre côté. Là, j'ai un peu respiré, je me suis dit, bon, l'après-midi va être un peu plus simple que si je l'avais eu en face de moi pendant 80 minutes.
Mais ce que l'on ne sait pas encore à ce moment-là, c'est que Jonah Lemieux est malade. Il souffre d'insuffisance rénale. Jonah le savait depuis 1994, mais il ignorait que le mal était plus profond. Il apprend en 1996 que le mal qui le ronge est une maladie génétique rare, le syndrome néphrotique. Ses reins ne fonctionnent pas correctement, il ne filtre plus le sang, conséquence, gonflement dans le bas des jambes, les coupures ou éraflures se transforment en abcès, fatigue chronique, temps anormal de récupération après une blessure. Il décide en janvier 1997 de faire connaître sa maladie. Il organise une conférence de presse à Auckland et elle crée une vive émotion en Nouvelle-Zélande et dans le monde du rugby.
Oui, c'est vrai, c'est émouvant. Mais on s'en doutait déjà en 96, même à la Coupe du Monde, il avait des entraînements à part. On n'osait pas le dire, mais surtout on ne le disait pas aux autres joueurs parce qu'il n'arrivait pas à récupérer après les matchs. Donc il fallait le ménager. Les joueurs qui ne savaient pas, qui n'étaient pas dans le secret, il y avait une espèce de rancœur, ressentiment à un moment donné dans l'équipe à cause de ça. Il avait un régime entre guillemets spécial. Mais bon, après, quand on a su, tout le monde l'a compris et c'était encore remarquable quand on pense à ses performances en 96 en Afrique du Sud et en 1995, quand on pense à ses performances, ce que son corps a dû subir pour arriver à ce niveau-là, c'est franchement incroyable.
Pendant longtemps, on ne savait pas.
Yann Delegue, 20 sélections en équipe de France.
C'est plus en fin de carrière qu'on l'a appris et ça a aussi expliqué peut-être que physiquement, sur 80 minutes, c'est un joueur qui ne pouvait pas forcément être très constant. Enfin, il n'avait pas une grosse densité physique pour répéter les tâches. Et sa maladie a expliqué ça.
Il n'a que 21 ans et à ce moment-là, il n'est pas exclu qu'il ne rejoue plus jamais au rugby. Alors il disparaît des terrains pendant 8 mois. 8 mois au cours desquels il suit un lourd traitement qui le fait monter à plus de 150 kilos. Il en profite pour faire le tour du monde, participer à des conférences, commenter des matchs à la télévision. On l'aperçoit en loge à Roland-Garros. Il découvre une nouvelle vie. Jusqu'au 21 septembre 1997, un grand jour dans la vie de Jonah Lemieux. L'insuffisance rénale a suffisamment diminué pour qu'il reprenne enfin le fil de sa carrière. 8 mois après, il retrouve son équipe du Counties Manukau. Il écrit: j'avais rêvé de ce jour, c'était mon premier pas vers le but ultime, le maillot noir. Le maillot des Blacks. Ce maillot qu'il va retrouver à peine 2 mois plus tard.
La Marseillaise.
Octobre 1999, Londres, stade de Twickenham. Demi-finale de Coupe du Monde, France, Nouvelle-Zélande. Jonah a 24 ans, il est redevenu le joueur effrayant qu'il était à ses débuts. 6 essais inscrits déjà avant cette demi-finale, dont le plus beau du tournoi encore, face aux Anglais. Il se présente avec les Blacks comme l'immense favori face à un 15 de France sur lequel personne n'ose parier. Et pourtant, les Bleus commencent fort la rencontre. Inscrivent le premier essai du match par Christophe Lamaison. Le plan anti-Lemou mis en place fonctionne à la perfection. Jusqu'à la 24e minute de jeu, au commentaire pour TF1, Christian Jean-Pierre et Bernard Laporte.
Le pack des Blacks qui ont récupéré le ballon, quasiment sur la ligne des 22. Une longue balle, Christian Kullen, Jonah Lemou, l'arbitre laisse l'avantage, Jonah Lemou, face à Milou Tamak, Lemou, il faut l'arrêter, il défonce tout.
Oh là là, quelle action de Jonah Lemou.
C'est Gulliver.
C'est un extraterrestre, Christian, n'ayons pas peur des mots.
C'est Gulliver au pays des Lilliputiens.
C'est un extraterrestre, 5 Français sur le dos, il a fait 10 mètres, et il est allé marquer.
Les Blacks mènent 17-10 à la mi-temps, puis s'envolent à la 45e minute.
Attention à la relance, il sait mettre le feu, Wilson. Avec Lemou, Wilson qui a redoublé, Wilson à l'extérieur, il cherche du soutien, Lemou, attention Lemou, oh là là, il se balade, Gulliver se balade, proche, essai néo-zélandais.
C'est un monstre, Christian, c'est un monstre.
24-10, c'est le match des Blacks, le match de Lemou qui va vivre une deuxième finale de Coupe du Monde. À ce moment-là, le couvercle s'est refermé sur le cercueil des Français, écrira plus tard Jonah. Mais la suite, et les Français s'en souviennent, c'est le miracle de Twickenham.
Ils ont perdu le ballon, il a récupéré au loin, au fond. C'est bien fait.
C'est bien joué. Christophe Dominici est parti. Christophe Dominici a pris le ballon. Il a passé. Essai français. Essai de Christophe Dominici, c'est un génie.
Essai. Ouais. Extraordinaire. Extraordinairement bien joué de la part de Fabien Galthié. Coup de pied dans la boîte, comme l'on dit. Un rebond favorable et Christophe Dominici qui surgit. Que c'est bien fait.
27-24 pour la France, Bernard, on rêve.
Christophe Dominici, puis Richard Dourte, puis Philippe Bernat-Sall. Le 15 de France terrasse les Blacks, 43-31. Ce qu'il s'est passé en deuxième mi-temps semble presque inexplicable. C'était irréel. Les Français ont tout simplement pris feu, dit Jonah Lemou. Je n'ai jamais vu une autre équipe faire ce qu'ils nous ont fait en deuxième mi-temps. C'était d'un autre monde. Que dire des 3 essais qu'ils ont marqués? Que dire de ces touchés de balle magiques? Jonah Lemou se console ensuite en revenant à son premier amour, le rugby à 7. Il est sacré champion du monde en 2001. Il remporte le Tri-Nations avec les Blacks en 2002, mais ses problèmes rénaux s'aggravent. Lors d'un test match avec les Blacks contre le Pays de Galles en 2002, un an avant la Coupe du Monde, son grand objectif, Jonah se sent mal, très mal. Pendant l'échauffement, il vomit. Il est amené en urgence à l'hôpital de Macclesfield, dans le nord de l'Angleterre. Une prise de sang est effectuée. Tous les résultats sont anormaux. Il souffre d'une strangulation intestinale. C'est la première grosse alerte pour le joueur. Il a 27 ans. Quelques jours plus tard, un autre examen révèle qu'il souffre de neuropathie, une détérioration neurologique qui affecte ses jambes. Je ne contrôlais plus rien en dessous du genou, je perdais l'équilibre, j'ai cherché des solutions, mais rien ne marchait, les électrodes, l'acupuncture. Son quotidien désormais se résume alors en grande partie à des heures de dialyse. 6 jours sur 7, pendant 8 heures, enchaîné à une machine, à ne penser à rien, juste l'ennui, comme il le décrit. Les spécialistes, les uns après les autres, lui expliquent qu'il y a de grandes chances qu'il soit condamné à la chaise roulante.
Le plus dur a été que ma vie n'a plus jamais été la même, parce que je ne pouvais plus marcher correctement. Je dépendais toujours de quelqu'un pour aller aux toilettes, à la cuisine, pour m'apporter à manger, pour m'aider à me mettre debout. Pour un jeune homme, il est difficile d'accepter ça.
En 2003, il est venu dans la loge, et ce qui était touchant, c'est qu'il est venu avec les cannes, tu vois, il avait du mal à marcher.
Denis Charvet, 21 sélections en équipe de France.
Il est rentré, il est venu nous remercier, moi, les Barbariens, parce qu'il sait très bien que nous, on l'avait vraiment accueilli, on l'avait fait venir, tu vois, on avait été bien vieillant avec lui. Et là, ça avait été terrible, c'était un moment dur, très dur. Très dur de voir ce mec qu'on avait idolâtré arriver avec des béquilles dans la loge, c'était affreux.
Comment les Néo-Zélandais vivent cette période-là? Ces images d'un Jonah Lomu, une montagne de force, de puissance, à ce point diminuée.
Les Néo-Zélandais sont forcément très touchés. C'est devenu une icône du pays, une icône du sport, évidemment. Et avec tous ses exploits sportifs, mais, et avec le personnage qu'on a appris à connaître depuis ses débuts. Et donc le pays est très touché par ses souffrances de voir une telle montagne, un tel exemple sportif réduit à ça.
Il y a une solution pour sauver Jonah Lomu d'un état qui se dégrade dangereusement. Une greffe de rein. Il a beau s'appeler Jonah Lomu, il n'est pas prioritaire. L'attente pour trouver un donneur peut être longue, 3 ans, 4 ans, ou même ne jamais venir. Mais le 20 février 2004, il reçoit un coup de téléphone. Au bout du fil, un vieil ami, Grant Kereama, qu'il a connu lorsqu'il jouait à Wellington. Kereama lui demande son groupe sanguin. Jonah répond « Oh ». Grant réagit et lui dit « C'est le même que le mien ». Mon cerveau a commencé à s'affoler, je n'arrêtais pas de lui demander s'il était sûr. « Es-tu sûr ?» Kereama lui explique qu'il est en parfaite santé et donc en mesure de lui donner un rein pour sauver un ami. Mais il pose une seule condition, rester anonyme.
Le jour de la transplantation, je suis allé dans sa chambre et je lui ai dit « Tu peux encore rentrer à la maison aujourd'hui, je ne serai pas en colère, je ne serai pas déçu. Je veux que tu sois sûr de faire ça parce que tu en as envie. » Et il m'a répondu « Tu sais, j'en ai parlé avec ma famille, j'ai deux reins en bonne santé et je sais que tu as besoin d'en recevoir un. Et c'est pour ça que je suis ici. »
La greffe a lieu le 28 juillet 2004 à l'hôpital d'Auckland. Elle est un succès. Les deux hommes sortent quelques jours plus tard. Jonah revit. Son corps accepte le rein et il a le feu vert pour s'entraîner avec un objectif en tête. La Coupe du Monde 2007. Progressivement, ses jambes retrouvent leur motricité. D'abord la marche, puis le vélo, ensuite la course à pied.
Pour moi, j'ai gagné ma Coupe du Monde dont j'avais besoin. Me voir marcher à nouveau quand tous les spécialistes disaient que j'allais passer le reste de ma vie en fauteuil roulant.
Et le 4 juin 2005... And also to see the comeback
of one of the truly greats. Nous allons voir le retour d'un des plus grands du rugby de cette dernière décennie, Jonah Lomu. Quelques mois après la transplantation d'un rein, Lomu veut se prouver à lui-même et au monde entier qu'il est toujours sur pied et qu'il est capable de jouer un match international.
Jonah réapparaît sur une pelouse de rugby dans un jardin qu'il connaît par cœur, Twickenham.
Lomu is back in the game. On the field where he had so much glory in his heyday.
Il est le capitaine d'une équipe de l'hémisphère sud conviée au jubilé de Martin Johnson, capitaine de l'Angleterre championne du monde. Moins d'un an après sa greffe, il se sent prêt à jouer.
J'imagine que quand on a l'estomac ouvert et qu'on a un nouveau rein à l'intérieur de soi, ce retour c'est comme une promenade dans un parc, comparé à réapprendre à marcher. Je sais exactement où je vais. Si on me parle de peur, je pense tout de suite à ma mère. C'est la seule personne qui me fait peur. Quand elle crie, je suis là. Oui, maman, qu'est-ce que je peux faire? Sinon, je n'ai peur de rien, ni de personne. C'est juste une autre opportunité de sortir de la maladie et de jouer un sport que j'adore.
Et à l'entrée sur la pelouse, l'émotion est forte. Mais elle est gâchée 37 minutes plus tard par une fracture de l'épaule. La blessure est sérieuse, elle hypothèque sa saison 2005 alors qu'il doit rejouer dans le championnat néo-zélandais. Il retrouve tout de même la compétition en décembre avec les Cardiff Blues, sa première expérience dans un club étranger, mais il est maudit. Lors de son 10e et ultime match, il se casse la cheville. Il a 30 ans et le rêve de jouer une dernière fois la Coupe du Monde s'effondre brutalement. Nous sommes à la fin de l'année 2007. Jonah n'est plus un joueur de rugby. Il suit en spectateur la défaite des Blacks, encore contre le 15 de France, mais cette fois-ci dès les quarts de finale de la Coupe du Monde. Quelques semaines plus tard, alors qu'il vit une séparation très médiatisée avec sa deuxième femme, il croise la route de Nadine, qu'il connaissait depuis son passage à Wellington en 1999, elle deviendra sa troisième femme, celle qui lui donnera deux enfants, alors qu'il n'y croyait plus.
The biggest turning point in my life is outside of becoming an All Black.
Le plus gros tournant de ma vie, en dehors du fait de devenir un All Black, a été d'apprendre la grossesse de Nadine. Parce que durant toute ma vie, j'ai passé des tests pour savoir si je pouvais avoir des enfants et les chances étaient de 0,001%. Un soir, je rentre en Nouvelle-Zélande et tout d'un coup, Nadine s'est évanouie. Elle a passé des tests et l'infirmière lui a fait passer un test de grossesse. Elle revient quelques minutes après et lui dit « Vous êtes enceinte ». On l'a regardée et on a juste continué à parler comme si de rien n'était. Et 10-15 minutes après, j'ai demandé à Nadine, elle a dit que t'étais enceinte et « Oh merde ». Et enfin je réalise et je me dis « Oh, ok ».
John Lemieux va être père. Il le vit comme un miracle, d'autant que sa femme, Nadine, aussi pensait ne pas pouvoir tomber enceinte.
Oui, ben, c'était, je m'en rappellerai toujours son émotion quand il m'a confié qu'il allait être père. Et pour moi, c'était la chose la plus merveilleuse parce qu'il ne s'y attendait vraiment pas. C'était une chance sur plus d'un million, je crois, qu'il pouvait être père. Et en fait, il avait carrément renoncé à ce rêve. Et le jour où il me l'a dit ça, je me rappelle de son émotion. C'est peut-être plus fort que tout, parce que quand il était joueur, il était toujours sous la pression des médias et tout ça. Il n'a jamais pu s'exprimer humainement ou de toutes ses joies sportives. Mais là, la joie humaine d'être père, c'était plus fort que tout.
Son premier enfant, Brayley, naît en février 2009. Jonah a 34 ans. Il est désormais un homme apaisé. Un père qui passe beaucoup de temps avec son fils. Un homme qui accepte, convaincu par sa femme, de revoir son père, Sémissi Lemieux, près de 20 ans après avoir claqué la porte du domicile familial. J'ai dit à mon père que je lui en voulais encore, mais que nous pouvions travailler là-dessus et voir comment les choses pourraient évoluer. Des petits pas pour commencer. Cela fait plus de 3 ans que Jonah n'a plus disputé un match de rugby de haut niveau. Pour tout le monde, il s'est retiré définitivement du jeu. Mais en 2009, au cours d'un dîner, un ami lui dit qu'un petit club du sud de la France, qui évolue en 3e division, veut lancer un projet ambitieux. Marseille Vitrolles. Jonah est emballé. Très vite, il rencontre le président du club. Et le 3 novembre 2009, il atterrit en rockstar à l'aéroport de Marignane, accueilli par le président, fier de son coup.
En tant que président de club, je ne vois pas un président de club au monde qui ne peut pas rêver d'avoir Jonah Lemieux dans son équipe.
Claude Haché, président de Marseille Vitrolles.
C'est un rêve, je rêve encore. Quoi. J'ai l'impression, des fois, je me dis, je vais me réveiller. En fait, ce n'est pas le vrai Jonah, c'est son cousin ou pas. Non, mais non, c'est bien lui. Hein. Je pense que c'est une formidable opportunité pour tout le rugby français, le rugby provençal, évidemment pour l'équipe de Marseille, que Jonah soit parmi nous.
Honnêtement, à ce moment-là, je suis un enfant. Le Frédéric qui retourne des années en arrière avec sa console de jeu et le jeu spécialiste avec Jonah Lemieux qui traversait le terrain.
Frédéric Ouraba, ailier de Marseille Vitrolles.
Je suis cet enfant qui a grandi dans le monde du sport et qui est venu au rugby un peu tard, mais qui a des idoles, qui a des mentors, qui a des influences de jeu. Et je suis finalement donc cette personne qui va côtoyer ce qui n'était que du domaine de l'imagination avant, ou en tout cas de ce qu'on pouvait voir avec interposé d'écran. Donc finalement, c'est quelque chose qui va devenir réel et dans le quotidien de chaque joueur du club.
Du rêve à la réalité, l'aventure provençale de Jonah ne dure que quelques mois. 7 apparitions seulement, aucun essai. Il joue en deuxième ligne et plus ailier. Il reconnaît qu'il n'a plus les jambes pour déborder, raffuté et marqué. Mais son aura dans le vestiaire est toujours la même.
Il parlait très souvent et à bon escient, avec beaucoup d'humilité, toujours pareil. Il voulait pas prendre la place de capitaine, mais il était là pour donner des infos, de l'expertise, de l'expérience, de l'histoire passée, de ce qu'il avait pu connaître. Des petits conseils aussi de placement pour les ailiers ou de jeu, de choses qu'il avait pu lui engranger dans son passé. Donc voilà, on était vraiment sur du mentorat, on va dire. C'était vraiment un mentor.
Jonah quitte donc Marseille, quitte donc la France, déçu, car il avait imaginé s'y installer. Lui qui a toujours considéré notre pays comme son deuxième pays, il adorait notre culture, notre mode de vie.
Oui, il a adoré la France. Et je crois qu'il a adoré les Français. Et ses premiers contacts en 1994, notamment avec Émile Tamac, avec qui il est devenu ami. Il a trouvé quelque chose dans la France qu'il a admiré, qu'il adorait, la culture. Il m'a parlé du public du Parc des Princes. Il n'avait jamais, à l'étranger, jamais trouvé un autre public pareil. Un public qui applaudit le jeu, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et donc, il adorait la France, oui, il adorait.
Septembre 2011, l'hymne néo-zélandais résonne dans l'Eden Park Stadium d'Auckland. C'est le match d'ouverture de la Coupe du Monde. Les All Blacks affrontent les Tonga, l'équipe de Lemu, contre le pays de ses racines. Jonah est en tribune, il est l'ambassadeur numéro 1 de la compétition. Et pendant que les Blacks empilent les essais sur le terrain, lui se sent mal, à nouveau. Nausée, symptômes grippaux, il est inquiet et quelques jours plus tard, après avoir perdu 16 kilos, il se rend à l'hôpital d'Auckland pour passer des examens sanguins. Le verdict est inquiétant. Il souffre d'une septicémie. 7 ans après la greffe, son rein ne fonctionne plus. Le cauchemar recommence. Les mois suivants, sa survie est suspendue à des heures de dialyse et un traitement médicamenteux très lourd. Les médecins avaient fait de leur mieux. Maintenant, je dois me préparer au pire, comprend Jonah en cette fin d'année 2011. Yann, à quoi va ressembler la vie de Jonah Lemu ces 4 années, justement, de 2011 à 2015? Que fait-il?
Ben, il fait beaucoup de dialyse, surtout. Il est sans arrêt à l'hôpital pour se faire dialyser. Il voyage un peu, mais pas beaucoup. Mais bon, il se consacre à sa famille. Et je pense un peu à son image aussi, parce que les sponsors, les partenaires sont toujours avec lui. Et donc, mais il reste, malgré sa maladie, il reste quand même le superstar, le mégastar du rugby mondial.
Et le 18 novembre 2015, Steve Tu, directeur de New Zealand Rugby, convoque la presse au siège de la fédération et fait l'annonce que tout le monde redoutait.
It's my duty to just confirm the incredibly sad news that we've lost another great All Black this morning.
Son médecin de toujours, celui des Blacks, John Mayhew, racontera que Lemu semblait pourtant en bonne santé. Il rentrait tout juste d'un voyage à Dubaï. C'est au cours de ce vol que se serait formé un caillot dans le poumon. Il a succombé quelques heures plus tard, ce 18 novembre, à une crise cardiaque dans sa maison à Auckland. Jonah Lemu avait 40 ans. Après l'annonce du décès de la légende néo-zélandaise, c'est l'ensemble du monde du rugby qui partage son émotion, et pas seulement. De Johnny Wilkinson à Dan Carter, de Tana Umaga à son ami de toujours, Eric Rush, le footballeur David Beckham, lui, écrit ces mots. Jonah était un vrai héros, l'une des personnes les plus gentilles qu'il m'ait été donné de rencontrer.
Une générosité incroyable. Gentil, un petit peu timide, introverti. C'était quelqu'un, voilà, très famille. Il était patient, il prenait des photos avec tous les enfants, il faisait beaucoup d'autographes et tout. Et c'était quelqu'un pourtant qui souffrait. Hein. Un grand joueur sur le terrain et un grand monsieur en dehors.
Les moments de vie sont les moments les plus forts que j'ai pu vivre. Finalement, on l'a connu à travers la télé, on l'a connu à travers les médias et puis les livres ou les photos. Et on l'avait là avec nous, sur les soirées, au repas, dans le bus, au bord du terrain, assis, juste en regardant les autres. Et donc, on discutait de la vie, on discutait des enfants, on discutait des projets professionnels, on pouvait discuter de tout. C'était ça qui était le plus fort dans cette aventure et que je garde en moi à jamais, parce que, comme dit le vieil adage, ce qui a été sera, pourvu qu'on s'en souvienne. Donc, c'est important aussi de faire vivre l'esprit de Jonah. C'était quelqu'un de hyper généreux et qui adorait découvrir l'autre en fait.
Novembre 2015, 12 jours après son décès, c'est donc dans son jardin favori, à l'Eden Park d'Auckland, qu'un hommage national lui est rendu. Et ce jour-là, le dernier à prendre la parole est Chris Greenter, l'homme qui a donné 27 ans plus tôt au jeune Jonah, 13 ans, le goût du rugby à 15.
So a troubled young man, embraced by a school, challenged by rugby.
Jonah était un jeune homme perturbé, embrassé par une école, challengé par le rugby, guidé par une attitude positive et de grandes attentes de lui-même. Il était capable de transformer ses faiblesses et les challenges en une incroyable force. Malgré sa maladie, il a réussi une carrière exceptionnelle et a tant inspiré. Du début à la fin de la carrière de Jonah, je lui envoyais des messages après chaque match important. Et pour la dernière fois...
Too big, too fast, too much.
Quelle trace Jonah Lemou a laissé en Nouvelle-Zélande ?
En Nouvelle-Zélande, mais je pense que partout où on joue au rugby, il laisse la trace d'un joueur comme nul autre pareil. On n'avait jamais vu un joueur comme lui avant, et je pense qu'on ne verra jamais un autre joueur comme lui après. Il était quelque chose à part, mélange de tout, de puissance, de vitesse, de technique, d'instinct rugbyistique, et surtout d'une gentillesse et d'une timidité presque maladive. Qui est à l'encontre de son physique imposant. Et donc, il va laisser une trace du joueur qui a changé la face du rugby et quelqu'un qui a fait rêver beaucoup, beaucoup de joueurs à travers le monde.
Vous l'avez connu pendant toutes ces années de rugbyman. Quels souvenirs vous gardez personnellement ?
Personnellement, c'est difficile de dire. Moi, j'ai vu ses premiers matchs, je l'ai vu à Hong Kong en 1994, alors qu'il était encore à l'école. Enfin, il sortait à peine de l'école avant qu'il devienne black. Et c'était quelque chose d'époustouflant. Mais je me rappellerai toujours, sur le plan personnel, à un moment donné, parce qu'il est devenu tellement énorme au niveau des médias, il fallait des gardes de corps pour lui. Et puis, à un moment donné, je crois qu'on était à Sydney, il était venu me voir. J'ai dit, mais écoute, non, je ne peux pas te parler, tu sais, on n'a pas le droit. Il dit, non, on m'a même dit ne pas te parler, surtout à toi, mais tu es le seul qui me traite comme un être humain. Et donc, je garde ça comme souvenir.
Merci Ian Borswick, merci infiniment. C'était le Panthéon RMC Sport, un homme, une légende, Jonah Lemou, le joueur parfait. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, vous pouvez écouter les épisodes précédents consacrés à Bernard Tapie, Kobe Bryant, Christophe Dominici, Ayrton Senna, Johan Cruyff, et Mohamed Ali. Merci à Maxime Abolin pour son précieux travail à la production. À bientôt.